France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous, alors, dans la vallée de la Bruche, on est touchés par le retour du loup depuis un an. Et le but, c'était de venir avec les éleveurs pour voir comment, ici, dans les Abruzes, ils ont fait, puisque le loup n'a jamais disparu ici.
Ici, les gens sont habitués à cohabiter avec les loups. Grâce à l'aide des chiens, qui est très très important, et grâce aux clôtures électriques.
Questo è il lavoro che ci facciamo. E come vai? Non vuoi essere mica.
Qui sommes-nous pour tuer tous les loups? Il n'y a pas la question c'est mieux avec les loups ou pas. Les loups sont ici et donc il faut faire avec. On ne voit pas le loup comme un problème.
Objectif atteint, et même plus tôt que prévu, le plan loup qui doit permettre d'assurer la viabilité de l'espèce dans l'Hexagone visait une population de 500 loups à l'horizon 2023. Il serait déjà 580. L'Office français de la biodiversité a repéré 80 meutes en France. Historiquement présent dans toutes les campagnes françaises, le loup avait totalement disparu dans les années 30, victime notamment des tirs et des empoisonnements encouragés par des primes. Il a acquis depuis le statut d'espèce protégée au niveau européen. Et en 1992, un premier couple de loups a été observé en France dans le parc national du Mercantour. Après avoir colonisé les Alpes puis tous les massifs français, les loups progressent même en plaine. Mais les éleveurs refusent d'en payer le prix. Ils se plaignent des attaques à répétition contre leurs troupeaux. Ils ne veulent pas élever des chèvres, des veaux ou des brebis pour nourrir les loups. Une coexistence apaisée sera-t-elle possible un jour ? Pourquoi ne pas chercher des solutions de l'autre côté des Alpes ? Car en Italie, où éleveurs et loups n'ont jamais cessé de cohabiter, il n'y a pas de débat enflammé comme en France. Et le loup n'est pas considéré comme un ennemi. Ménager le loup et l'agneau, une cohabitation à l'italienne, c'est un reportage signé Olivier Vogel. Invité de ce grand reportage, Jean-Marc Landry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, spécialiste du loup et responsable de l'Institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection, l'IPRA, qui est basé en Suisse, dans le Valais. Alors, vous nous ferez profiter de votre expérience de terrain en complément du reportage d'Olivier Vogel. Olivier, depuis l'an dernier, l'Alsace est concernée par le retour du loup et un groupe de travail consacré au loup s'est mis en place.
Oui, c'est un groupe de travail qui réunit autour du maire de Ranru, l'un des villages concernés, des élus, des naturalistes, des éleveurs confrontés au retour du loup un siècle après sa disparition dans la vallée de la Bruche. C'est une région de montagne dans le massif vosgien côté alsacien où des attaques ont lieu depuis un an et demi. Des moutons, des chèvres ont été prédatés. Alors l'idée c'est de tenter de trouver des solutions pour gérer le retour du loup autrement qu'au bout du fusil. C'est dans cet esprit qu'une partie du groupe est allée la semaine dernière sillonner les Abruzes en Italie. Il faut souligner que le maire de Ranru, Thierry Siffert, a beaucoup bataillé pour tenter de convaincre les éleveurs alsaciens de faire partie du voyage. En vain, l'un d'entre eux lui a notamment envoyé un SMS à quelques jours du départ dans lequel il disait qu'il ne voulait pas donner du crédit, et je le cite, à un voyage dont le message final pourrait être que la cohabitation avec le loup est possible.
Alors vous êtes parti la semaine dernière, Olivier, en minibus, direction la chaîne des Apennins au centre de l'Italie, entre Rome et l'Adriatique.
Je m'appelle Thierry Siffert, je suis le maire de Ranru, un village dans la communauté de communes de la vallée de la Bruche, dans le Bas-Rhin. Ça fait plus d'un an qu'on a été confronté au retour du loup, donc on est touché et confronté à cette problématique qui fait beaucoup parler. On a décidé d'organiser un voyage dans les Abruzes où le loup n'a jamais disparu pour voir comment les éleveurs, les élus, les habitants, les touristes cohabitent avec le loup.
Les grands prédateurs qui repointent le bout de leur museau dans le massif vosgien sont issus des meutes des Abruzes. Là-bas, le loup n'a jamais disparu. Les bergers, les éleveurs composent depuis longtemps avec lui. Une cohabitation intrigante pour ce petit groupe parti d'Alsace.
Les espaces sont tellement grands que...
Oui, entre la forêt en bas de versant et puis en haut, c'est très minéral avec beaucoup de pierriers, roches calcaires. Frédéric Preisemann, je suis technicien forestier à l'Office national des forêts. Donc je travaille dans la vallée de la Bruche où je m'occupe de deux forêts communales. Et je suis aussi membre du réseau mammifère de l'ONF où je suis plus particulièrement spécialisé sur les carnivores, le loup, l'ours, chat sauvage.
On a des couleurs d'automne là qui commencent à arriver, c'est sympa quand même. Hein. Jean-Sébastien Lomont, je suis chargé de mission paysage et environnement à la communauté de communes de la Vallée de la Bruche. On dit souvent sur notre territoire qu'il faut s'occuper des hommes qui s'occupent des bêtes, qui nous font de beaux paysages. Et il faut qu'ils restent sereins malgré la présence du loup et sur le territoire.
Ouais, puis ça monte haut en altitude, même les arbres, quoi, on les retrouve à plus de 1000 mètres, il y a encore des hêtres. Dès qu'on passe les 1200, 1300 mètres, il y a de moins en moins d'arbres. Tu veux mes jumelles pour voir ?
Oui, passe-moi tes jumelles, tiens, je vais voir. Ouais. Bah, c'est sûr qu'ici, on est obligé d'avoir une bonne paire de jumelles, sinon... Bah, peut-être que je vais voir un ours quand même, mais bon, ça me paraît pas évident quand même de voir un ours. Et elle est où ta tache brune, là, que tu disais tout à l'heure, là-haut ? Elle est là-haut, hein, c'est ça, ouais.
Bah, si t'as un loup couché dans le pierrier, là, pour
ah,
le
ça,
distinguer...
Ça serait tellement... le bonheur total, ouais. Hein.
Mais bon, ils sont tellement camouflés que je suis pas sûr que tu le... s'ils ne bougent pas.
Ah non, on voit rien bouger. Hein.
Puis s'ils se cachent dans les forêts, alors là, tu peux toujours chercher.
Ah non, on n'aura rien.
Le périple démarre sous la houlette de Massimo, l'un des gardiens du parc national des Abruzzes. Casquette kaki vissée sur la tête, revolver à la ceinture, il nous mène avec Jessica, l'interprète, vers la bergerie d'Isidoré, perchée à 1650 mètres d'altitude, il y a une heure de marche.
On a besoin du passage habituel des loups.
C'est une zone habituelle où les loups marchent. Ici, on peut regarder les empreintes des loups. C'est un exemplaire assez gros.
Bonjour, je suis Massimo D'Alessandro. Je suis guardia de parco, ranger, dans le National Park of Abruzzo, Lazio et Molise.
C'est difficile de dire si c'est un exemplaire seulement ou ils sont deux. Ils ont l'habitude de remarcher sur les traces de l'autre qui précède. Donc les loups sont des animaux habitués, qui ont les mêmes habitudes, donc ça c'est le passage habituel. Donc c'est très intéressant l'organisation de la meute des loups, parce qu'en fait moitié meute reste là pour, comme gardien, pour contrôler si tout va bien. Et les autres exemplaires continuent le parcours et tout le temps, c'est ça, ils s'organisent tout le temps comme ça pour se déplacer. C'est très difficile de voir les meutes, justement parce qu'il y a toujours un exemplaire ou deux qui va à l'avance, donc c'est difficile de voir les meutes.
In inverno, un branco di 12 lupi, tutti insieme.
On est ici pour chercher un peu d'informations. Alors c'est un sujet qui est hyper sensible, le retour du loup en France. Ça on le sent partout. Et nous, alors dans la vallée de la Bruche, on est confronté et touché par le retour du loup depuis un an.
Oui.
Et le but c'était de venir avec les éleveurs pour voir comment ici dans les Abruzzes, ils ont fait, puisque le loup n'a jamais disparu ici. Donc ils ont toujours cohabité. Nous, en Alsace, le loup, il est de passage et il fait aussi des dégâts dans les troupeaux. Donc l'inquiétude des bergers, elle est légitime. Donc on vient ici, en fait, pour chercher des informations et surtout la vision qu'ils ont eue ici pour cohabiter avec le loup depuis toujours, puisqu'ici, il n'a jamais disparu. En tout cas, c'est clair que c'est un sujet qui est hyper sensible, compliqué. On sait qu'il y a 80% de la société civile qui est plutôt pour le retour du loup. C'est bien, beau comme ça, mais en fait, il y a plus de 50% de ces 80% qui connaissent absolument pas du tout la problématique des éleveurs. Donc voilà comment on va arriver à contenter tout le monde et à trouver la cohabitation la plus harmonieuse possible. J'espère qu'on pourra y arriver. Alors après, tu vois, le débat du loup pour ou contre, il est complètement dépassé. Le loup, il est là. On ne l'a pas réintroduit dans nos petits territoires. Il est de passage, donc il faut qu'on fasse avec.
Il faut apprendre à cohabiter avec lui, point, c'est tout, quoi.
Oui. En plus, voilà, moi qui suis forestier, je suis bûcheron de métier, de profession. Donc pour moi, la forêt a une haute importance dans notre société
et on a vraiment des gros problèmes de déséquilibre forêt-gibier. Et le loup, il peut apporter quelque chose de positif pour la biodiversité. Nous, on a nos forêts qui ne se régénèrent pas. Le chevreuil et le cerf qui sont en surdensité, ils mangent tout. Et du coup, nos enfants, si on ne fait rien pour ce problème qui est quand même, à mon avis, essentiel, on n'aura plus de forêt, quoi. Nos enfants, on ne leur retransmettra pas les mêmes forêts que nos aïeux nous ont retransmises. La forêt, c'est une énergie renouvelable, mais il ne faut pas prendre tout d'un coup, quoi. Puis en plus, avec le problème des cervidés et des chevreuils, la forêt, elle pousse plus. Donc, si on ne fait rien, à un moment donné, il n'y aura plus de forêt. Et ça, c'est difficile, surtout pour les élus. Hein. Alors moi, je suis élu, mais souvent, les élus, ils ont une vision d'un mandat. Un forestier, il a une vision... Son échelle de mesure, c'est le siècle. Donc il faut se projeter. Le travail qu'on fait maintenant, nous, on ne le verra pas. C'est nos enfants, petits-enfants qui,
oui, à long terme,
qui le verront.
Isidoré, visage buriné par le soleil et cigarette au coin des lèvres, vit du printemps à l'automne dans une petite maison de pierre au confort rudimentaire. Une batterie de voiture pour l'électricité, un jerrycan pour l'eau, ses chiens et ses brebis.
Il a été attaqué cette nuit par un loup. Donc maintenant on va voir la carcasse et
les
dégâts.
Si, si.
Donc il va chercher la carcasse.
La carcassa è andata a prenderla perché altrimenti il lupo la finiva. Siccome per avere l'indennizzo bisogna vedere la.
Le monsieur a repris la carcasse de l'animal avant que le loup la finisse, parce que pour avoir le remboursement de la part de l'État, il doit prouver qu'il a eu un dégât. Donc voilà la carcasse qui montrera au parc.
Questo è quello che resta della predazione.
Voilà ce qui reste de la carcasse.
Evidentemente più di qualche lupo.
Sûrement ils étaient plusieurs à manger cet animal.
Lo scheletro, la cassa toracica e le zampe sono le uniche parti che di solito rimangono.
Alors de cet animal nous avons le squelette avec la casse thoracique et juste un peu de peau et les pattes, et en fait c'est les seules parties qui mangent pas.
È molto probabile che l'interiore sono quelle che vengono mangiate per prima.
Et il commence à manger l'animal par le ventre et il mange ce qu'il y a dedans, les intestins, il le mange.
Qui è molto probabile che gli animali siano più di uno perché è proprio completamente pulito.
Oui, il dit qu'il est très bien nettoyé, les autres sont très bien nettoyés, donc il pense, il confirme que c'était plus d'un loup qui a fait ça.
Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'il y a souvent des prédations?
Dans l'Ouvio, il y a eu 16 ans.
Donc le monsieur a eu 5-6 attaques pendant cet été.
Comment vous vivez ces attaques du loup?
Il loup, tu peux dire.
Ils sont d'accord pour cohabiter avec les loups, donc ils ne sont pas contre. Mais il faut trouver... c'est pas facile de cohabiter avec les loups.
Pour moi, personnellement, si il n'y a pas, c'est mieux.
Bon, il dit que ça serait plus facile une vie sans loup. Bien sûr, ça serait, toute la situation serait plus tranquille. Mais c'est nature, donc il ne voit pas pourquoi il ne peut pas rester ici, le loup. Donc, il a confiance dans ses chiens.
Quand vous partez le soir, est-ce que vous êtes angoissé de retrouver le troupeau
Donc, il dit 45.
Donc, il dit qu'il a assez confiance. Il va le soir, il se retire, il est tranquille parce qu'il a les chiens. Donc, pour son troupeau, il a 6 chiens qui normalement défendent et ils font la garde.
Il a un troupeau de combien de moutons?
150.
Et alors, cette nuit, ils étaient où quand il s'est fait attaquer les moutons?
Non, elle est restée dietro.
Ah, elle est restée, elle n'est pas rentrée, on va dire. Un exemplaire n'est pas rentré et voilà.
Oh! Hey! Viens là! Viens là!
Et donc là, il va faire grandir les petits, les chiots, il va les garder encore pour les troupeaux. Donc il aura encore plus de chiens pour garder les troupeaux.
C'est quelle race exactement ?
Un berger des Abruzzes.
Berger des Abruzzes, ok. Mais ils attaquent le loup, enfin oui, comment ça se passe ?
Ah, il commence à aboyer, donc c'est un signal pour lui, pour les hommes, que le loup s'approche.
À quelques kilomètres de là, à Valescanissé, nous attend l'un des plus importants éleveurs des Abruzzes, Gregorio Rotolo. Sa ferme auberge est labellisée agrotourisme. Il y propose fromage et charcuterie.
Gregorio.
Thierry, enchanté.
Buongiorno. Buongiorno a te. Tu puoi vivere in Italia?
Buongiorno.
Buongiorno. Io ho 60 anni.
Il a 60 ans?
Ma sono 70 anni che sto con le pecore.
Mais ça fait 70 ans qu'il est avec les moutons.
Da sempre. Et attaqui che io mi ricordi, ma in totale saranno stati una quindicina.
Peut-être 15 attaques il a subi.
Quest'anno ne abbiamo avuti 3.
Cette année 3 attaques il a subi.
Che poi le pecore e i lupi non l'hanno nemmeno mangiate.
Ils ont tué les moutons mais ils ont même pas mangé les moutons.
Noi qua abbiamo 1500 pecore, stiamo a scanno. 40 mucche e 100 capre.
J'ai 1500 brebis, moutons, 40 vaches et 100 chèvres.
100 capres. Da come hai capito
donc
prima,
ici, dans les Abruzzes, le loup n'a jamais disparu. Donc ici, les gens sont habitués à cohabiter avec les loups grâce à l'aide des chiens, qui est très très important pour cohabiter avec les loups, et grâce aux clôtures électriques.
C'est ce travail que nous faisons. Et la typologie d'allevamento que nous faisons.
Donc, ils ne laissent jamais les troupeaux de chèvres, enfin des animaux, des brebis tout seuls, dans le sens que les animaux sont toujours accompagnés par les chiens, mais aussi, bien sûr, par les bergers.
Da pastore. Dal pecoraio.
Si.
Parce que les pastori sont les gars.
Est-ce que votre métier serait plus facile sans le loup?
Non te lo so a dire, perché noi abbiamo sempre dovuto convivere con il lupo.
Je ne sais pas répondre à cette question, il dit, parce qu'en fait, on n'a jamais vécu sans loup, donc ça vient naturel pour nous de vivre avec lui.
Et comment vas-tu? Non vuoi essere mica Dio che dice, io distruggo tutto.
Il dit, qui sommes-nous pour tuer tous les loups? Il n'y a pas la question, c'est mieux avec les loups ou pas. Les loups sont ici, et donc il faut faire avec.
È come se c'hai un vicino che magari la notte ti tiene accesa la televisione alta. Tu che fai? Vai a rompere la televisione del vicino?
Il dit, fais un exemple, si t'as un voisin qui met la télé très haute, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tuer le voisin ou casser la télé ou tu le laisses, voilà, tu fais avec. C'est un peu pareil.
Oui, oui, parce que nous, on est venus ici parce qu'en Alsace, on est touché par l'arrivée du loup, alors qu'il avait disparu depuis un siècle.
È arrivato il nuovo vicino.
Le nouveau voisin est arrivé, il dit, et
du coup, nous, les bergers, ils ont des inquiétudes qui sont légitimes.
Alors, io quando ho cominciato
pour maintenir ton troupeau du même numéro, tu vois, chaque année, tu fais grandir tes petits agneaux. Et si, par exemple, tu veux faire grandir ton troupeau du 20%, tu dois toujours calculer, genre, le 5% en plus, ça sera pour les pertes des loups.
Tu devi allevare almeno il 5% in più. Perché ci stanno i lupi?
Si nous avons un troupeau de
lupi,
moutons
ci sono i
hors de la clôture,
pastore, non
le
fanno,
loup peut même tuer tous les animaux.
Fuori.
Par contre, si les moutons sont à côté de la ferme, donc protégés par la clôture, et en plus les chiens qui aboient, donc ils vont appeler le berger, tout se passe bien. Enfin, on arrive à pas faire de dégâts.
Io non ricordo
casi dove il lupo è entrato dentro il recinto e ha ammazzato me.
Il n'arrive pas à rentrer, donc on n'a pas beaucoup de dégâts dans ce sens-là. Que quand le troupeau de moutons est dans la montagne libre, alors là, oui, il y a beaucoup de dégâts.
Qu'est-ce qu'il aurait comme conseil à donner aux bergers d'Alsace qui sont confrontés au loup ?
Primo consiglio, i cani.
Les chiens, très important.
Et il pastore tutti i giorni con le becco.
Et le berger ne doit jamais laisser le troupeau...
Allora, quando il lupo,
les chiens
quando
sont très importants pour la défense du troupeau parce que quand il sent que le loup s'approche, il commence à aboyer. Le berger reconnaît le mode d'aboyer, donc il comprend qu'il y a un danger, que le danger exactement c'est le loup. Donc il dit déjà, le loup entend le chien. Et comme le loup, c'est un animal très intelligent, il associe quand même le chien avec l'homme. Donc déjà, il a déjà peur. En plus, quand le berger entend le chien, il s'approche et le loup s'échappe rien qu'à la vue de l'homme. Parce qu'il sait très bien que l'animal plus méchant, c'est l'homme.
Se poi in Francia ci siamo disabituati a tenere il lupo.
Si en France il n'y avait pas de loups jusqu'à présent, ça suffira d'apprendre simplement à cohabiter avec eux, parce que c'est possible. C'est l'homme, sans doute, qui est plus méchant.
Tutti gli animali hanno paura dell'uomo.
Tous les animaux ont peur de l'homme.
Dans la famille Tamburo, on élève des vaches et des moutons pour la viande depuis des décennies. Ici encore, le loup a toujours fait partie du paysage, même si Eliseo, le père, 80 ans, se souvient d'une situation plus tendue quand il était jeune.
Quand il était jeune, il y avait moins de loups. Et en plus, à l'époque, tout le monde avait le droit de les tirer, de les tuer. Donc du coup, les gens, ils étaient contre et ils s'échappaient. Donc à l'époque, il y avait beaucoup moins de cerfs dans la forêt. Donc du coup, ils n'avaient pas à manger. Ils se rapprochaient beaucoup plus des fermes et tout ça. Voilà qu'ils tiraient sur les loups. Et là, comme ils ont beaucoup plus à manger dans la forêt, c'est difficile que le loup s'approche quand même de la ferme ou des habitations.
Trova più cibo da meno fastidio, insomma. Ce ne sono 130, 140 con i vitellini piccoli appena nati.
Alessandro, le fils d'Eliseo.
Hanno avvistato 11 lupi.
Quando?
Una settimana fa.
La 130 vaches avec le petit en haut sur la montagne, c'est à 1600 mètres.
Circa 300.
Et 300 moutons per Pasquale. Et 10 chiens. Et quanti attacchi ha avuto, scusa, quanti lupi hai avvistato?
11 lupi.
Et ils ont vu dans cette zone 11 loups.
Ma non è la quantità, dipende poi dal cane, deve essere un buon cane da guardia.
Il dit que c'est très important la qualité du chien, enfin comment il fait son travail, c'est pas tellement le nombre de chiens qui est important, mais comment tu élèves le chien pour faire ce travail, pour défendre le troupeau.
L'acqua che mandiamo su oltretutto, quindi sono pascoli dove prima non ci si andava, adesso noi mandiamo l'acqua su con una pompa, no? Sono 1500 mètres di tubo.
Et quindi qu'on comprenne que eux, comme tous les bergers d'ici, ils sont habitués à vivre avec les loups. Il veut souligner le fait qu'ils ne font pas d'efforts comme on pourrait faire nous avec le fait que les loups commencent à venir. Eux, ils sont habitués comme ça, donc ils ont l'esprit assez tranquille quand ils ouvrent aux animaux pour les laisser manger dans les montagnes.
Però abbiamo un atteggiamento diverso, cioè non è la
ils ont les chiens, ils sont tranquilles, ils laissent leurs animaux dans la montagne, donc même à 1600 mètres, où d'ailleurs ils ont réussi à emporter l'eau pour les faire boire. Nous avons 1500 mètres de tubes qui emmènent l'eau sur la montagne.
Diverso, quindi partiamo da quello. Parce que sinon, c'est difficile de capire mes discours.
En fait, le loup, pour vous, les bergers des Abruzzes, ça ne pose aucun problème. Quoi. Vous vous êtes adapté à la situation, à sa présence dans les pâturages.
Cioè, c'è il lupo, cioè, forse il problema è pure questo, no? Bisogna innanzitutto capire
in che senso uno vede il lupo. Donc si on décidait de tuer les loups, voilà, on élimine le problème. Mais si demain un cerf cause un problème, qu'est-ce qu'on fait? On tue tous les cerfs?
Dicendo che il lupo non c'è da sta, non lo vogliamo. Allora il cervo da problema, non lo vogliamo.
Donc si on suit cette philosophie, c'est sûr que on va essayer d'habiter avec le loup et de ne pas tuer les loups. juste, on ne voit pas le loup comme un problème.
Ça arrive quelques fois que tu manges une pécora, comment qui vient bien pagata.
Et si on a une attaque de loup, ben, on est content, entre guillemets, parce qu'on sait quand même qu'on aura un remboursement, donc on essaie de...
Cioè, il problème, adesso, un altro. Il problème, un altro, no? Allora, noi avevamo la mandria su in alto.
Qui? La mandria. La mandria. Le problème, le vrai problème, c'est pas tellement le loup, mais les touristes. Ça ferme, ben, là, voilà, ça ferme. De l'autre côté, il y a un grand hôtel pour attirer encore plus les touristes. Ils mettaient juste du miel pour faire venir les ours, pour contenter les touristes. Et pareil, ils mettaient du sel pour attirer les cerfs. Finalement, l'ours, il est passé par sa ferme, il a tout cassé son clôturage, enfin, il a eu des dégâts. Et pareil avec les cerfs, finalement, ils ont donné la faute à lui, au berger, comme quoi il a pas bien fait clôturer ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, donc ça devient un problème pour lui, les touristes.
Donc là, on va au siège du parc, on a rendez-vous pour avoir plus de détails sur le loup.
Je suis Roberta Latini et je suis biologiste du parc national d'Abruzzo, Lazio-Molise. Le loup, c'est très important parce qu'il est au
sommet.
De la
pyramide.
De la pyramide. Et ici, par exemple, on a beaucoup des ongulés sauvages qui a été réintroduit dans la moitié de 1970 juste pour les loups. Parce que ici, il y avait seulement des moutons et il n'y avait pas des ongulés sauvages. Dans le passé, il y avait les cerfs, les chevreuils. Ils étaient disparus par la chasse. Et donc, le parc a réintroduit cet ongulés sauvage pour le loup. Le loup a un rôle important pour réguler les populations sauvages. Il n'y a pas un secret pour vivre ensemble les loups. Il n'y a pas. Même ici, il y a des problèmes avec les loups. Mais il fait partie de l'environnement, de la tradition, de la culture. Et donc, il est normal qu'il y ait des loups qui mangent les moutons, par exemple. Ici, les loups et les prédateurs ne sont jamais disparus. Et donc, les personnes sont habituées à vivre avec les prédateurs. Quand le loup est remonté par les Apennines, il est arrivé au nord. Et là, il y a des problèmes parce que les personnes n'étaient pas habituées. Et il y a des problèmes parce que les personnes ne connaissent pas les loups et ont des idées qui sont encore négatives sur cette espèce. Mais ici, toutes les personnes sont nées avec les loups. Donc, les bergers, par exemple, les éleveurs, ont toujours mis des systèmes de protection. C'est un peu différent parce que les moutons ici sont enlevés pour les laits. Chez vous, par exemple, pour la viande. Donc, ils sont laissés pendant tout l'été dans les pâturages. Ici, non, parce que chaque soir, les moutons reviennent. Ils sont contrôlés par les bergers et c'est un peu différent.
J'ai bien compris, au niveau de l'indemnisation, le montant est assez élevé.
Oui, les parcs donnent une indemnisation pour les prédations et les prix. Le remboursement, c'est très haut. Et par exemple, un mouton pour la viande coûte 60 €. Mais s'il est mangé par les loups, il coûte
190.
Et donc, les loups, ce n'est pas un problème. On préfère que les loups mangent les moutons. Pour sourire, je vais dire que maintenant, on fait l'élevage des indemnisations. Et selon moi, ce n'est pas positif. Parce qu'il y a des mécanismes de protection. Mais si tu vas payer en plus, les personnes ne sont pas motivées à utiliser des systèmes de protection. Donc il faut arriver à protéger les troupeaux et vivre vraiment avec les loups.
Est-ce que les remboursements sont conditionnés justement à ce que les bergers mettent des filets de protection?
Non. S'il y a les fils de protection et les loups mangent les moutons qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas remboursés. S'il a une protection qui lui a donné les parcs, les bergers doivent utiliser correctement les fils électriques. Souvent, les prédations, on a dans les pâturages, quand ils vont rentrer dans l'enclos.
On dit que les loups, donc, ils vivent en meute. Nous, sur nos territoires, on a des loups solitaires.
Oui.
Est-ce que, par rapport au travail que vous avez fait, est-ce qu'un loup solitaire est plus agressif, plus dangereux que des loups en meute?
Non, non. Les loups qui vivent en meute ont des stratégies de chasse qui sont différentes, mais il n'y a pas de différence. Ils ne sont pas agressifs. Ici, il y a beaucoup de personnes qui vont en montagne, beaucoup de loups, mais nous n'avons jamais enregistré des agressions de loups. Nous avons un problème avec les personnes qui veulent voir les loups, les passionnés, les photographes, parce qu'en passé, ici, il y a une zone où on a commencé à voir les loups. Et donc, tout le monde allait pour voir les loups. Ils ont commencé à mettre des carcasses pour faire des photos. Et ça a été un problème. Parce que les loups qui étaient dans la zone ont commencé à changer comportement. Ils attaquaient même les chiens. Ils avaient des comportements qui étaient bizarres pour des loups. Et c'était un problème. Il y avait les éleveurs qui donnaient les carcasses. Et il y a beaucoup de photographes qui venaient ici pour prendre des photos.
Le loup et l'ours peuvent attirer jusqu'à 800 000 touristes par an dans le parc des Abruzzes. C'est la ressource principale de ces 12 communes, comme Civitella Alfedena, avec ses vieilles maisons de pierre, son musée du loup et la possibilité d'observer le grand prédateur dans un parc en semi-liberté.
Io sono Giancarlo Massimi, sindaco di Civitella Alfedena.
Je suis Giancarlo Massimi et
le maire.
Il est le maire de Civitella.
Donc bonjour monsieur le maire. Chers collègues, merci de nous recevoir dans votre village. On vient d'Alsace pour voir comment vous vivez et vous cohabitez avec les loups.
Mais non, abbastanza bene.
Tout va bien avec les loups?
Non, diciamo che non ci sono mai stati.
Non, le loup n'est pas un problème. Le loup attire le touriste, donc c'est bien pour nous.
Touristica. Civitella è un paese piccolissimo, il più piccolo del parco, con 280 abitanti.
Nous avons 280 habitants.
Le attività prevalenti sono attività legate al turismo.
L'attività più grande è, bien sûr, il turismo, che è legato al fatto che ha le loup.
Sì. E diciamo, il lupo è una parte dell'offerta turistica,
nel senso che molte du loup qui attire les touristes et le fait qu'on puisse voir comme ce matin les loups dans ce parc clôturé.
Nous dans la vallée de la Bruche, ça fait un an qu'on a été où il y a eu la première attaque depuis un siècle, le loup avait disparu et la première attaque a eu lieu l'année dernière, ça fait un an. Et c'est pour ça qu'on est venu faire ce voyage, pour voir, parce que ça crée vraiment des inquiétudes pour les bergers chez nous. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, pour voir comment vous cohabitez avec tout, avec le loup, avec l'ours et les bergers.
Ho visto durante una tappa del Tour de France, non so se per linea da qualche parte, che hanno scritto «Tu es le loup».
Il a vu que dans les Pyrénées, pendant le tour de France, il y avait un panneau écrit « Il faut tuer le loup ».
La stessa cosa che sta succedendo in Alsace.
Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème, parce que le loup est présent ici en Abruzzes, mais par exemple, le loup est... a commencé à s'élargir aussi en Toscane. Et là, c'est aussi c'est la même situation de l'Alsace. On a 2-3 exemplaires. Et donc, là aussi, les bergers se posent la même question que vous. Et en fait, le conseil, c'est de changer un peu l'organisation des bergers, dans le sens qu'il ne faut pas laisser le troupeau tout seul. Il faut changer un peu les habitudes.
Anche nel parco ci sono molti cervi e molti
dans le parc, nous avons aussi beaucoup de cerfs et beaucoup de sangliers qui, entre autres, font beaucoup de dégâts et on va dire même plus que les loups. Donc en vérité, le loup n'est pas un problème, on peut faire avec.
Chez nous aussi, on a beaucoup de cerfs
et de sangliers. Les serres font beaucoup de dégâts au niveau de la forêt. La régénération de la forêt ne peut plus se faire. Et les sangliers font beaucoup de dégâts au niveau de tout ce qui est pastoral dans les prés et dans les pâturages.
Et il lupo è importante perché è un predatore, quindi sarebbe un ottimo predatore di cervi e lupi.
Donc voilà que le loup est très important parce que c'est le prédateur des cerfs et des sangliers, donc ça peut, pourrait être la solution.
Et on a aussi, enfin nous, on a, enfin, le lobby agricole est quand même puissant et il est vraiment opposé à l'arrivée du loup.
Ma il lupo non viene introdotto, si muove da solo. E stranamente è il primo animale europeo perché non conosce le frontiere.
Mais le loup ne connaît pas les frontières, donc il continue à se déplacer. Donc il faut apprendre à faire avec.
Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce voyage dans les Abruzzes. En fait, moi j'en retire que la présence du loup n'est pas un frein pour l'activité d'élevage. Au contraire, je pense juste qu'il y a besoin d'adaptation. Alors bien sûr, on n'est pas sur les mêmes systèmes, on n'est pas sur les mêmes dimensions d'espace, mais il y a vraiment pour moi des points positifs à tirer de ce voyage.
Pour rejoindre un peu Jean-Sébastien, c'est pareil, on a constaté en fait qu'on s'y attendait, on savait que le loup n'avait pas disparu, et en fait pour les gens des Abruzzes, que ce soit les éleveurs ou les guides, les gens du parc, c'est pas du tout un problème. Au contraire, ça leur apporte beaucoup de choses et ils ont réussi à en tirer parti. Après, on voit aussi qu'il faut faire attention parce que le tourisme de masse, eh ben, ça a des impacts pas toujours positifs. Donc ça, c'est un enseignement que moi, je m'y attendais pas, quoi. Il faut vraiment faire attention à maîtriser ce tourisme. Mais on voit bien qu'en ayant quelques bonnes pratiques, on peut réduire les problèmes que peut engendrer le loup pour l'élevage, quoi. Voilà. Le loup des Abruzzes, en fait, c'est le même que chez nous. Il est parti des Abruzzes, remonté le nord de l'Italie, le Mercantour, jusqu'à la Bruche, quoi, en 30 ans. Quoi, ouais. Le loup, c'est un grand prédateur. Il est tout en haut de la chaîne alimentaire, donc il va pas épuiser son milieu. S'il y a trop de loups, s'il n'y a plus assez à manger, ben les meutes vont se reproduire moins activement. Il y aura moins de jeunes, et les jeunes qui vont naître, ils vont devoir trouver de nouveaux territoires. Et on ne peut pas juxtaposer des meutes indéfiniment. Il y aura une meute ou deux peut-être dans les Vosges, on ne sait pas. Et ils se contenteront de ce qu'il y a sur place. Et s'il n'y a pas assez à manger, et ben, ils ne pourront pas se reproduire plus.
Ben, la conclusion, c'était vraiment un voyage vraiment bénéfique. Quand j'entends Jean-Sébastien, qui est quand même un spécialiste de l'agriculture, Frédéric, de la forêt et du loup, vu les commentaires qu'ils font, je pense que le voyage a été réussi pour essayer de trouver la voie du milieu. Trouver la cohabitation avec les éleveurs, les forestiers, les chasseurs, les touristes. J'ai confiance aux éleveurs et à leur compréhension parce que cette visite démontrera qu'une ouverture est possible et puis surtout que la cohabitation est tout à fait réalisable chez nous, quoi.
Ça doit obliger à re-réfléchir, à repenser les choses, à continuer à travailler monde des élus, monde des agriculteurs, monde de l'environnement ensemble, comme on l'a toujours fait, face à un loup. Alors ici, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de loups et donc ils arrivaient à faire. Donc je pense qu'il y a nécessairement des solutions à trouver et que à l'échelle de la vallée, mais aussi à l'échelle du massif des Vosges. Faut un peu dépassionner le débat, je pense. Peut-être faire venir des gens des Abruzzes ou d'autres territoires qui ont appris à vivre avec le loup pour qu'on ait des échanges et des discussions qui soient plutôt constructives. On a plus à y gagner, à continuer à travailler ensemble et pas à se focaliser sur le fait qu'un loup peut perturber tout un système en place depuis un grand nombre d'années, quoi.
J'étais surpris de voir que soient les bergers, les élus, ont un respect en fait pour les animaux, pour tous les animaux, quoi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que même si les bergers n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde par rapport aux loups, en tout cas, ce qu'ils disaient, c'était vraiment qu'on n'a aucun droit de le tuer. Le problème, c'est pas le loup. Le problème, c'est justement les cervidés qui prennent toute la pâture aux moutons. C'est les sangliers qui, comme chez nous, abîment les pâtures. ces deux problèmes qui sont bien plus importants que les prédations dans les troupeaux de moutons. Chez nous, ce n'est pas un message facile à faire passer auprès de nos éleveurs. Nous, on n'a plus l'habitude du tout du loup, donc ça fait quand même que les éleveurs sont obligés de revoir un peu toutes leurs pratiques, c'est-à-dire que les moutons soient tout le temps accompagnés. Il faudra qu'on fasse des conférences au niveau des éleveurs et puis de la société civile aussi. Tout seul, on va plus vite et ensemble, on va bien plus loin.
Ménager le loup et l'agneau, une cohabitation à l'italienne, un reportage d'Olivier Vogel avec Pascal Doumange.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, l'éthologue Jean-Marc Landry. Alors on vient d'entendre l'enthousiasme du petit groupe français, hein, mais est-ce qu'il ne risque pas d'être accueilli fraîchement à son retour? Parce que chez les éleveurs, chez les syndicats agricoles français en tout cas, il y a une hostilité de principe à la cohabitation avec le loup. Hein. Le message c'est « il n'a rien à faire chez nous ». Est-ce que ce retour d'expérience peut leur parler, Jean-Marc Landry, et faire tomber certaines de leurs réticences?
Si on prend tous les éleveurs français ou bergers, tout le monde n'est pas forcément contre la cohabitation. Cohabitation veut bien dire habiter sur le même territoire. Ce n'est pas la coexistence, ce n'est pas dire chacun de leur côté, mais c'est partager le même territoire. Alors les Abruzzes sont souvent cités comme exemple. Simplement, les Abruzzes, on peut aller voir ce qui se passe. Je pense que c'est très intéressant, mais ce n'est pas tout à fait la même situation qu'en France. Donc c'est vrai qu'ils risquent d'être un peu accueillis, un peu vertement, si on leur dit « oui, la cohabitation fonctionne bien ». Parce que, comme le reportage le dit bien, c'est des brebis laitières, il y a un contact avec l'humain, on rentre les bêtes tous les soirs, c'est pas la même économie. Donc je pense qu'on peut aller voir en Espagne comme en Italie, on peut s'inspirer des expériences, puis après il faut adapter cette expérience à nos contextes différents. Et la France est un grand pays, le contexte alpin n'est pas le même que le contexte vosgien, que le contexte alsacien ou le contexte de plaine.
Donc effectivement, pas le même contexte, pas la même économie. Est-ce qu'on peut quand même transposer dans ces grandes lignes ce modèle italien en évitant de laisser le troupeau tout seul, en s'équipant de chiens?
C'est pour ça qu'il y a le plan national loup qui permet en fait à des conditions bien précises de pouvoir avoir des chiens, des participations de financement pour des clôtures ou des bergers, mais c'est pas partout. Et quand le loup arrive dans de nouvelles zones, ce qu'on appelle les zones de colonisation, souvent il y a pas grand chose qui est prévu parce qu'il faut déjà démontrer qu'il y a le loup et puis après il faut qu'il y ait de la prédation 2 années de suite pour qu'on puisse commencer à mettre les choses en place. Et parfois ça prend un peu de temps.
C'est ça la première chose, c'est que les loups conquièrent de nouveaux territoires, donc il faut s'adapter sans cesse.
Il faut s'adapter sans cesse et on demande beaucoup aux éleveurs. Vous comprenez que l'élevage a subi pas mal de changements ce dernier siècle, avec la chute du prix de la laine dans les fin des années 1800. Puis après, il y a eu la chute du prix de l'agneau avec l'ouverture des marchés. Puis aujourd'hui, ben, le loup arrive sur des secteurs où on a appris à vivre sans lui. Donc c'est compréhensible que les éleveurs soient un petit peu réticents. Surtout que nous, vous et moi, ou la plupart des gens, on est en faveur de ce retour de la nature, de ce retour du loup, de la biodiversité. Mais qui c'est qui en paye le prix sans cesse? C'est les éleveurs. Donc je comprends tout à fait qu'ils soient réticents. Après, on n'a pas trop le choix. Le loup est une espèce protégée, elle est revenue naturellement. Et on est en plein changement, hein, changement du climat, changement de société et changement pour les éleveurs avec le retour des grands prédateurs.
Et donc pour nous, effectivement, un changement de philosophie. On doit passer du conflit de territoire au partage de l'espace. Donc, quelle est la meilleure façon de faire aujourd'hui? Est-ce que justement le plan loup, avec tout ce qu'il prévoit, vous semble adapté à la réalité du terrain?
Alors le plan loup, je pense qu'il est très intéressant parce que là où le loup est installé, il permet quand même aux éleveurs et aux bergers de se protéger. Où je trouve qu'il est mal adapté, c'est sur les zones nouvellement colonisées parce qu'il faut déjà prouver que c'est de la prédation, que ce soit un prédateur comme le loup. Et ça, c'est difficile. Souvent, ça prend plusieurs années. Donc on a beaucoup de cas où il y a des conflits, où les éleveurs se sentent souvent seuls, puis un peu abandonnés. Et ça, c'est quand même une réalité qu'il faut relever.
Des difficultés à se faire indemniser, c'est ça, quand une bête a été tuée par un loup?
C'est surtout la difficulté de faire reconnaître qu'il y a du loup dans le secteur. Je prends un autre exemple qui est le Massif Central ou la Creuse. Ça fait plusieurs années qu'il y a de la prédation. Pour l'instant, ça n'a pas été démontré que c'était du loup. Et il faut vraiment démontrer. On devrait peut-être changer de paradoxe en disant, ben voilà, quand il y a de la prédation, que ce soit du chien, que ce soit du loup, que ce soit n'importe quel prédateur, on met de la protection en place. Et ça, pour l'instant, on a un peu de la peine à le faire. Après, vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant, c'est c'est le partage du territoire. Mais le partage du territoire, c'est pas que les éleveurs qui doivent partager le territoire, c'est nous tous, ce qu'on appelle le multi-usage. Quand vous allez vous balader en montagne, on partage aussi le territoire avec les bergers ou avec les éleveurs. Et là, on a un autre problème, c'est que pour protéger les troupeaux, souvent on met des clôtures, on met des chiens de protection des troupeaux, hein, ces grands chiens qui protègent les troupeaux contre la prédation. Et nous, en tant qu'utilisateurs de cette nature, on est les premiers à râler. Et qui c'est qui se retrouve un peu au banc des accusés? C'est de nouveau les éleveurs. Donc à quelque part, les éleveurs subissent cette prédation, qui n'est pas évidente pour eux. Puis d'un autre côté, ils subissent aussi un peu le mécontentement des randonneurs ou des touristes qui font face en fait à cette protection.
Olivier Vogel.
Alors Jean-Marc Landry, à propos de ces chiens de protection, tous les éleveurs ne sont pas vraiment disposés à les utiliser. Dans la vallée de la Bruche par exemple, l'une des éleveuses concernées par les prédations de loups a une ferme auberge et nous expliquait qu'elle n'a pas envie d'utiliser des patous pour que les patous agressent en quelque sorte les clients de sa ferme auberge. Alors, est-ce que ces chiens sont agressifs?
La majorité des chiens de protection des troupeaux sont des chiens fantastiques. La manière dont ils travaillent, il faut comprendre qu'ils doivent travailler souvent de manière seule. Ils doivent comprendre que s'il y a une prédation, ils doivent intervenir. Ils doivent comprendre que s'il y a des randonneurs, il ne faut pas intervenir. Que s'il y a un chien qui est en laisse, il ne faut pas intervenir. Et on est très exigeant avec ces chiens-là. Mais on peut avoir des chiens qui sont sympas avec les humains et qui sont très efficaces face aux loups. Simplement qu'aujourd'hui, en France comme en Suisse, on a un peu laissé aller, on n'a pas vraiment fait beaucoup de sélection. On a encore des problèmes dans la manière d'élever les chiens, ce qui fait qu'on a de temps en temps des accidents par morsure. Et j'utilise le terme d'accident pour montrer que c'est pas souvent. Mais bien sûr, ces grands chiens, on ne les connaît pas. Dans les médias, ben, on en parle tout le temps. On parle toujours du mauvais côté du chien. Et les éleveurs, aujourd'hui, dans les zones de colonisation, ont l'impression que ces chiens sont dangereux, sont méchants, vont bouffer tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut, je vous donne un exemple au Portugal, où on a certains chiens qui ne poseront jamais problème parce qu'ils ont été éduqués comme ça et tous les chiens agressifs ont été éliminés. Et nous, en France comme en Suisse, on peut faire la même chose. Après, il n'y a pas que le chien, mais il faut aussi maintenant que les gens soient aussi éduqués à savoir comment on se comporte avec des chiens. Quand vous êtes dans les Abruzzes, vous vous baladez, s'il y a un problème avec un chien vous aboie ou malheureusement vous mord, ben, c'est quelque chose qui est normal là-bas. Personne ne va aller porter plainte à la police ou aller se plaindre dans le bistrot du coin. Voilà, vous êtes dans les Abruzzes, vous faites partie d'un paysage où il y a des loups, il y a des chiens, c'est juste qui est normal. Et on doit aujourd'hui trouver les chiens qui seront adaptés aux Vosges, à l'Alsace ou aux Alpes. Notre société doit soutenir ces éleveurs ou ces bergers qui prennent des chiens, on doit les aider, on doit être avec eux, et on ne peut pas leur demander de porter toute la responsabilité. Alors quand je dis toute la responsabilité, c'est par exemple si un chien mord quelqu'un, puis que la personne porte plainte, qui est responsable de ce chien-là? Aujourd'hui, c'est l'éleveur, et on a eu un cas dans les Hautes-Alpes où un éleveur, parce que son chien a mordu, a eu une année avec sursis. Donc ça peut être très grave pour eux. Donc ce que je dis toujours, c'est à nous tous aujourd'hui, avec les éleveurs, de gérer tout ça, puis d'aider les éleveurs à prendre des chiens et puis avoir une certaine disposition à être ennuyé par les aboiements ou ce genre de choses.
Donc vous essayez d'apporter vraiment des réponses appropriées aux éleveurs. Pour ça, c'est essentiel d'acquérir des connaissances, de comprendre comment fonctionnent les loups et comment réagissent les troupeaux en face. Vous, vous les observez beaucoup les uns et les autres. Comment est-ce que vous faites exactement?
Alors nous avons de la chance d'avoir des caméras thermiques qui nous permettent de voir la nuit. Parce qu'aujourd'hui, toute la protection des troupeaux était basée sur des anecdotes, des observations anecdotiques ou sur des idées comment le loup se comportait. Et en 2013, on a commencé un projet qui s'appelle Canovis, sur lequel on s'est dit, on va aller voir dans la nature, la nuit, comment ça se passe. Donc on a commencé à filmer aux abords des troupeaux les interactions entre les chiens, les loups et les brebis. Et puis on a depuis 2 ans travaillé aussi sur les bovins. Et en fait, si vous voulez protéger les troupeaux, il faut avoir une grande connaissance du prédateur ou de l'ennemi pour certains. Des moyens de protection, alors moi c'est les chiens de protection des troupeaux ou des clôtures, et de connaître les brebis. Donc j'ai aussi une formation en production ovine pour essayer de comprendre comment fonctionne la conduite d'un troupeau par exemple. Puis une fois que vous avez ce triptyque-là, là vous pouvez commencer à faire des propositions concrètes, parce que vous êtes allé voir sur place, vous avez vécu les choses, et nous avons par exemple vu des attaques, on sait comment ça se passe, nous avons vu des loups manger des brebis vivantes, sauter des clôtures, ce genre de choses. Donc après, on comprend mieux aussi peut-être ce que l'éleveur peut ressentir ou un berger peut ressentir. Mais après, ce qu'on préconise aussi est beaucoup plus adapté en fait à une réalité du terrain Il faut surtout éviter de sortir de la théorie. Et je pense que le point principal dans notre travail, c'est sentir les choses avec les tripes. Il faut être là. C'est pas être dans un bureau puis en lisant des bouquins qu'on peut préconiser des mesures qui fonctionneront.
Et alors très concrètement, vous allez du coup adapter la taille des clôtures, leur emplacement, c'est des choses de cet ordre-là?
Oui, alors on va essayer de faire des propositions
sur
la hauteur de la clôture. Par exemple, l'idée c'est d'adapter pour chaque exploitation ou chaque troupeau. Chaque troupeau est différent, chaque région est différente, donc on essaye d'adapter. Après, il faut comprendre qu'on n'a pas forcément toujours des solutions. Il y a certains endroits où on est vraiment embêté. Par exemple, on parle des chiens de protection, on ne pouvait pas mettre des chiens de protection partout, ça ne fonctionne pas sur des petits troupeaux pour un éleveur qui doit ou qui fait de l'allotement. C'est-à-dire qu'on a un grand troupeau où c'est séparé en petits troupeaux, on a des éleveurs qui peuvent avoir jusqu'à 15 lots. Vous imaginez, vous ne pouvez pas mettre 15 chiens, parce que l'éleveur, juste de nourrir les chiens, ça va y prendre la journée. Donc il faut adapter en fait ces solutions-là. Mais le meilleur triptyque aujourd'hui dans les Alpes, c'est bien sûr d'avoir un berger qui puisse s'occuper des chiens qui vivent avec les brebis, puis avoir son troupeau de brebis. Après, dans vos régions, on a aussi du bovin, d'élevage bovin, et vous ne pouvez pas forcément mettre des chiens sur tous les élevages bovins. Et là, on arrive à une certaine limite, parce qu'on a peu de connaissances, en tout cas moi j'ai peu de connaissances sur les troupeaux bovins, et on ne sait pas encore comment protéger. Si vous regardez le plan national de la loup, il ne propose pas grand-chose. Donc on est en train d'étudier ça, de s'intéresser aux bovins, de travailler avec des bergers, de travailler avec des éleveurs qui élèvent des bovins, pour essayer de comprendre comment on peut protéger. Et puis là, on va commencer à proposer quelques solutions.
Et dans les moments où on se trouve sans solution, les tirs, c'est la seule réponse qui reste, tirer sur les loups?
Alors parfois, le tir de loup, qui est aussi un outil de protection, parfois c'est la solution, oui. Parce que quand vous avez des éleveurs ou des bergers qui subissent attaque après attaque, il faut aussi comprendre que lui, il est là pour défendre ses bêtes. Et on doit aussi lui donner les outils pour pouvoir défendre ses bêtes.
On peut tirer, mais pas dans n'importe quelle condition, pas sur n'importe quel loup.
Voilà, le tir est un outil de protection. Donc on peut tirer un loup quand c'est nécessaire. Il faut que ce soit bien fait. Mais quand vous tirez un loup, vous tirez un individu qui appartient à une structure sociale, une famille, un père, une mère, donc ce qu'on appelle les reproducteurs, avec les jeunes de l'année, puis des jeunes des autres années, c'est des adolescents ou des subadultes. Et si les parents, par exemple, attaquent très peu les troupeaux, puis que vous en tuez un, ce qui peut arriver, c'est que le groupe se déstructure, donc les petits n'ont plus ce cadre familial, et peuvent s'attaquer beaucoup plus aux troupeaux. Donc le fait de tirer un loup, parfois, peut, contrairement à ce qu'on pense, augmenter les dommages. Et c'est toute la difficulté pour ceux qui doivent tirer les loups, de savoir quel loup il faut tirer. Donc il faut donner une réponse immédiate, et l'idéal, ce serait de pouvoir tirer le loup qui est en train de faire l'attaque. Parce que parfois, il y a des loups qui passent à côté des troupeaux. Hein. Nous, dans notre étude, à peu près 50% des loups qui sont à proximité des troupeaux, je dis à proximité, c'est dans les 300 mètres ou un peu plus, et on voit que les loups passent simplement à côté des troupeaux parce qu'ils cohabitent, ils vivent dans le système pastoral. Et si vous tirez un loup qui n'a jamais attaqué un troupeau, ça ne sert pas à grand-chose. Les attaques ne vont pas forcément diminuer.
Donc, on a parlé des chiens, des clôtures, mais vous travaillez aussi sur des méthodes alternatives.
Alors, nous essayons de travailler avec des méthodes alternatives dans le sens où on aimerait apprendre aux loups à faire un lien entre danger et troupeau ou danger et brebis. Parce que le chien de protection va éviter peut-être une attaque ou va éviter qu'il y ait plusieurs brebis qui sont tuées, mais va pas éviter le loup de revenir. Si vous tirez un loup, le loup il meurt et puis il a pas cette capacité d'apprendre. Si vous mettez une clôture, ça va simplement empêcher un contact physique avec le troupeau. Mais nous, ce que nous aimerions, c'est d'aller un peu plus loin puis de se dire, est-ce qu'on est capable de punir le loup sans le tuer pour qu'il apprenne à ne pas plus approcher le troupeau et que ce loup qui a été puni soit capable d'apprendre aux autres loups de ne plus approcher le troupeau, ce qu'on appelle de l'apprentissage social. Donc on a développé, ça reste encore un peu à l'état théorique, mais un collier qu'on mettrait sur les brebis, qui serait capable de mesurer le stress de la brebis, et puis selon le type de stress, serait capable d'éjecter un répulsif qui punirait le loup. Et puis nous aimerions aussi faire des tirs non létaux, c'est-à-dire de pouvoir tirer sur le loup, lui faire du mal, parce qu'il faut vraiment que le loup ait un traumatisme, et qu'il fasse le lien avec les brebis, puis que ce loup apprenne à ne plus revenir sur les troupeaux. Et là, on est en train de développer, avec un collègue américain qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, plusieurs outils, parce que les éleveurs ont besoin d'un outil qui fonctionne. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent un peu avec des idées parfois farfelues, et puis les éleveurs sont parfois un peu pris là-dedans, en se disant qu'ils ont certains espoirs, et qu'on veut utiliser des outils, il faut vraiment être très très sérieux, avoir un cadre scientifique pour démontrer si ça fonctionne ou pas.
Alors il y a des loups aussi en Allemagne, en Espagne, bien sûr dans les pays de l'Est et du Nord de l'Europe. Est-ce qu'il y a une réflexion européenne sur le loup aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous avons une réflexion européenne. Là, je viens de recevoir un message d'un collègue allemand où on va se réunir pour justement discuter des attaques maintenant sur les bovins et sur les brebis, parce qu'on a des attaques comme en France de jour aussi, et essayer de trouver des solutions communes. Donc on commence à avoir de plus en plus un réseau européen sur une réflexion plus générale de la protection des troupeaux.
Merci Jean-Marc Landry. Ménager le loup et l'agneau, une cohabitation à l'italienne. Le grand reportage de cette semaine était signé Olivier Vogel. Prise de son et réalisation, Pascal Doumange et Annie Brault avec Jean-Frédéric à la technique. Merci à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.